Les informations avec Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le rapport du GIEC, les experts sur le climat, a été adopté hier soir par les 195 pays membres. Il doit maintenant être publié, ce sera fait ce matin. Un rapport qui se penche sur la sécurité alimentaire face aux défis du dérèglement climatique. Comment y faire face? Comment sauver notre planète qui accueillera d'ici 2050 10 milliards d'habitants? Des pistes seront données, Célia Kiré.
Les exigences portées par les experts peuvent paraître inconciliables. D'un côté, il faut préserver les sols pour sauver la planète. Et de l'autre, il faudra bien les utiliser pour nourrir près de 11 milliards d'habitants en 2100. Pour limiter le réchauffement, l'une des solutions est de planter des milliers d'arbres, de préserver les forêts. Le but étant de stocker du CO2 pour réduire l'effet de serre. L'Éthiopie prévoit par exemple de planter 4 milliards d'arbres. Mais en même temps, il faudra garder des terres à cultiver et trouver des techniques plus durables. Aujourd'hui, l'agriculture et la déforestation représentent près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. C'est considérable. Et pourtant, cela risque de s'aggraver si l'on ne change pas nos habitudes alimentaires. En 2050, il faudrait 56% de nourriture supplémentaire, selon l'un des experts. Seule solution donc, selon les chercheurs, un usage optimal des terres, moins de déforestation et donc moins de soja, par exemple, des changements d'habitude et une réduction massive du gaspillage. Chaque année, une surface de forêt tropicale équivalente au Sri Lanka est perdue. En parallèle, près d'un tiers de la nourriture produite est gaspillée.
Une planète, on le comprend, qu'il faut préserver, notamment en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. Pour les déplacements, cela peut passer par le vélo, utilisé par de nombreuses personnes en ces vacances estivales. Mais en France, il reste un gros point noir pour ces vacanciers. Le voyage en train avec un vélo, Laura Dulieu.
Tout dépend du train. Les tarifs diffèrent entre un TER, un intercité ou un TGV. Et il est de plus en plus souvent obligatoire, par exemple, de démonter son vélo pour le transporter dans une housse aux dimensions réglementées. Un manque de clarté que dénonce Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de bicyclettes.
Quand c'est un TER, alors dans chaque région, ça se passe autrement, mais en règle générale, ça fonctionne bien. Mais dès que ce sont des trains grande ligne, que ce soit des TGV ou que ce soit des intercités, ça devient très compliqué compte tenu du manque d'homogénéisation de l'offre, alors que le vélo plus train pourrait constituer une alternative crédible à la voiture sur un certain nombre de déplacements. En réalité, ça l'est très rarement.
À l'automne dernier, le Parlement européen a voté un projet de règlement qui imposerait à minima 8 places de vélo par train neuf ou rénové. Mais les députés, les États et la Commission doivent encore s'entendre sur le texte final. Du coup, c'est la prochaine loi mobilité qui concentre les espoirs des cyclistes.
La loi prévoit que d'ici 2024, les trains neufs soient dotés d'un certain nombre d'aménagements pour accueillir les vélos sans avoir besoin de démonter ces vélos. Malheureusement, premièrement, la loi n'a toujours pas été votée, mais deuxièmement, la loi renvoie à un décret.
Autrement dit, le nombre minimum d'aménagements obligatoires ne sera pas fixé par la loi, mais par un décret. La SNCF, de son côté, n'a pas souhaité s'exprimer sur la loi mobilité. Elle devrait être débattue à l'Assemblée cet automne.
Le dialogue politique au Venezuela est bloqué. Hier soir, le président Nicolas Maduro a suspendu les discussions avec l'opposition qui devait se tenir à La Barbade. Il souhaite ainsi répondre aux sanctions instaurées en début de semaine par les États-Unis contre son gouvernement. Les États-Unis qui soutiennent les opposants au Venezuela. Caracas toujours, dont l'armée aurait commis des exactions à la frontière avec la Colombie. Un rapport de l'ONG Human Rights Watch en fait état aujourd'hui. Notre correspondante en Colombie, Nadjet Benrabah, est allée à la frontière pour France Culture.
Je voulais savoir quelles sont les exigences pour obtenir
la nationalité colombienne.
Oui.
Alors tout d'abord,
discussion avec des compatriotes, gestion administrative, accueil des migrants dans des refuges ou organisation de manifestations de soutien à Juan Guaido. Tony Vitola cumule les actions au sein de la colonie des Vénézuéliens en Colombie. Il est son vice-président et garde un œil sur tout, notamment sur la situation à la frontière. D'après lui, elle se complique chaque jour.
Tous les jours, de nouveaux Vénézuéliens franchissent la frontière franco-vénézuélienne. Il y a environ 2300 nouveaux arrivants en Colombie avec l'intention d'y rester. Le département d'Antioquia représente 7% de l'ensemble des Vénézuéliens présents dans le pays. Plus de 96 000 Vénézuéliens sont ici.
Malgré tout, Tony Vitola ne baisse pas les bras. Il garde confiance en Juan Guaido.
On
a toujours de l'espoir. Je crois que Juan Guaido a fait plus ces derniers mois que n'importe quel autre politique ces 20 dernières années. Déjà plus de 54 pays le reconnaissent et le soutiennent dans le poste de président du pays. Le blocage économique et politique de Maduro s'est affaibli grâce notamment au travail de l'équipe de Juan Guaido. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation ne va pas se résoudre du jour au lendemain. Il y a de nombreux intérêts internationaux au Venezuela.
En attendant, la colonie des Vénézuéliens lance un plan de microcrédit avec le soutien de l'ambassade de France en Colombie. Objectif, aider 100 familles vénézuéliennes à devenir entrepreneurs.
C'était un reportage de Najat Benrabah en Colombie pour France Culture. Des manifestants en colère ont accueilli hier soir Donald Trump dans les villes endeuillées par des fusillades le week-end dernier. Sans jamais pouvoir croiser son chemin, ils ont accusé le président d'avoir attisé la haine et ils ont réclamé des contrôles renforcés sur les ventes d'armes à feu dans le pays. Mais le président américain, en visite dans l'Ohio à Dayton, puis au Texas à El Paso, a écarté la possibilité d'une interdiction des fusils d'assaut aux États-Unis. Il n'y a pas d'appétit politique pour le faire pour l'instant, a-t-il justifié. En bref encore, le corps d'un soldat israélien poignardé a été découvert ce matin en Cisjordanie occupée. Selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le militaire a été tué par un Palestinien au nord de la ville d'Hébron. Quelle tenue vestimentaire doit-on porter lorsque l'on est une femme et que l'on va au Maroc? Question qui revient une fois encore dans l'actualité après la diffusion d'une vidéo sur Internet. Des jeunes filles belges sont menacées de mort dans la région d'Agadir parce qu'elles portent des shorts, Sébastien Berriot.
Sur ces images, on voit les adolescentes belges en train de réhabiliter un chemin de pierre pour les habitants de Taroudant, mais un détail n'a pas échappé aux milieux les plus conservateurs. Les jeunes filles sont toutes en short, une tenue considérée par certains comme indécente dans un pays musulman. Les réactions n'ont pas tardé sur les réseaux sociaux, parfois très violentes, comme cet instituteur de 26 ans qui a clairement appelé à la décapitation des jeunes bénévoles, faisant référence aux deux touristes scandinaves assassinés l'an passé dans les montagnes au-dessus de Marrakech. La Direction générale de la Sûreté nationale, qui traque en permanence le radicalisme sur Internet, a mis seulement quelques heures pour arrêter l'enseignant. Ses propos sont condamnés par de nombreux Marocains sur les réseaux, mais sans aller aussi loin dans la violence, ils sont aussi nombreux à dénoncer la tenue des adolescentes. Un député du PJD, le parti islamiste au pouvoir, a exprimé sa désapprobation. Dans le camp des extrémistes musulmans, certains voudraient mettre un terme à la liberté vestimentaire qui existe depuis longtemps au Maroc pour les femmes. Mais cette volonté se heurte aux réalités économiques. Le Maroc vit du tourisme et ne peut pas se permettre de remettre en cause son image de pays ouvert. Même le parti islamiste au pouvoir ne s'y est jamais risqué.
Quelques mots enfin de la météo prévue pour ce jeudi en France. De la pluie est attendue sur les côtes de la Manche. Il fait gris du Finistère jusqu'au Pas-de-Calais. Le temps, en revanche, sera lumineux partout ailleurs. Les températures remonte un tout petit peu avec ce matin 21 degrés à Strasbourg, 23 à Nantes et Paris, comptez 25 degrés à Bordeaux et Lyon, déjà 30 à Marseille. Cet après-midi, entre 22 et 33 degrés du nord au sud.